C'est étrange parce que cette nuit, j'ai rêvé que j'avais plein d'agneaux que j'avais oubliés dans un champ et que ne sachant pas quoi en faire, je les mangeais tout cru comme ça. Je les prenais puis je les mangeais. Et d'un coup, j'ai tout vomi parce que je m'étais rendu compte que j'avais mangé un nouveau-né. Et que je voulais pas manger des nouveaux-nés, je voulais qu'ils aient déjà quelques mois, quoi. Qu'ils aient déjà vécu. Donc, je vais aller là. Je vais l'attraper peut-être avec ça, peut-être pas. Une fois que je l'aurai en main, je me mettrai comme je s'y mettre bien. Je ferai de mon mieux. On le tue. Et puis après, on viendra le prendre ici pour le vide. Mais la première étape, le tuer.
Ça va sentir.
Sentir la poudre?
Non, sentir le mouton.
Oui, sentir le mouton, tu veux que ça sente ou pas?
Non, ça va sentir pas.
Non.
Quelque chose l'émeut. Un documentaire de Stéphanie Kerkhardt.
On avait déjà des animaux, et j'aimais bien ça. Et alors je rêvais, je m'imaginais ma ferme dans ma tête et tout ça, et voilà, je voulais... d'avoir une ferme. C'est tout, je sais pas comment dire d'autre.
Ça a toujours été, quoi. Tu savais que c'était ici que tu voulais le faire?
Moi, ce que je rêvais, c'était une ferme. Ce dont je rêvais, c'était une ferme, c'est en carré, là. Un bâtiment...
Comme en Flandre.
Oui. Moi, j'aimais bien ça.
Et tu, pourquoi tu n'as pas fait ça?
Parce que déjà, c'est pas Gourmet. En Gourmet, ça n'existe pas. Une ferme Gourmet, c'est une maison en... en pierre de France, là, avec des coquillages dedans et tout. Des belles pierres de taille, belles pierres jaunes, avec une grange devant l'espace pour le tas de fumier. C'est plutôt en ligne, et puis avec des champs derrière, quoi. Et... bref, je prenais des mesures et je faisais des plans. Ben, ça sera pour une vache, ça sera pour ceci, ça sera pour cela. Et je jouais, en fait. C'est tout. Il y a quand même un moment où j'ai voulu faire prof. Côté de mon père, c'est tous des profs. Côté de ma mère, aussi, pas tous, mais beaucoup. Et pour moi, tu sais, ça a toujours été... chez nous, il faut avoir des lettres, quoi. Il faut lire, il faut... Nini, il faut ceci, il faut cela, il faut être cultivé. Sinon, t'es un peu une bouseuse. Et alors, j'ai voulu faire ça. J'ai été à Liège, en Romagne. Ça a duré une semaine. Je rentrais tous les soirs en train en pleurant. Ma mère a dit, c'est pas tenable, maintenant tu choisis. Alors je suis revenue ici. Puis j'ai été à la haute école Robert Schumann, à Virton. Là où en fait tout le monde va quand il rate l'UNIF en soi. Et ça, impossible de m'y faire. J'ai doublé et si je continuais, je doublais encore, donc j'ai arrêté. Et j'en ai pris un coup, hein, mon estime de moi, on a pris un coup de rater ça. Et donc, j'en ai conclu que prof, ce serait pas pour moi. Et donc, j'ai choisi de faire ça plutôt. Et quand j'ai arrêté, mon père m'a dit, et je lui ai dit, bah, je vais aller travailler dans des fermes. Il m'a dit, ça vaut tous les diplômes du monde pour moi, que tu m'annonces là.
Il était fier de ça?
Ouais.
Eh bien, petite, Mélie.
Tu leur donnes un prénom?
Mouche, Mélie, Escourgeon, Morette, Mirabelle. Donc elle est née le 7 mars. C'était prévu pour le 1er ou le 2 mars. C'est le premier village que je devais surveiller. Je me relevais trois fois par nuit. Ça a duré cinq jours, ouais. finalement, elle est née. J'ai dû aider, j'ai dû tirer un petit peu. Et directement, elle a eu ma voix. Et alors elle, je l'habitue, caresser partout. Et que ce soit normal, le jour où elle a un problème de pied, elle va pas se dire qu'est-ce qu'elle a à me toucher par là. Quand je voudrais la traire, elle sera habituée que j'aille après ses crayons. S'il faut aller dans sa bouche, c'est un peu plus chiant, mais c'est moyen. Et alors, quand tu veux rentrer en contact avec une vache comme ça, tu vas la caresser. Et puis, elle va se mettre à se relâcher peut-être à un endroit, la patte ou là. Ou... Et bien, ça veut dire qu'elle veut que tu la grattes là. Alors, tu te mets à la gratter là. Et alors, le top, c'est quand elle vient et qu'elle se remet à te relâcher. Alors, c'est horrible parce que ça fait super mal, ça, la langue grappeuse. Et voilà, elle veut aller la caresser là. Alors, je vais la caresser là. Et ça fonctionne comme ça. Je leur montre que je suis attentive à elle. Et alors, à un moment, ça arrive qu'elle te relèche aussi et tu sais qu'elle passe comme entre elles, quoi. Et moi, le son que je fais pour les rassurer, c'est « Oh là, oh !» Et j'essaie de descendre très bas. Et dès qu'elle a été tétée, je faisais « Oh là !» Et comme ça, maintenant, dès qu'il y a un stress, je fais ce son-là et ça la rassure. Si je dois la prendre à la corde et qu'une voiture passe à côté, je fais ce son-là et... Hein, faut parler avec toi. Lui, c'est horrible, hein, je vais devoir le tuer. Il sert à rien. Et sa bouffe a crevé. De toute façon, dans le village, il y en a beaucoup qui l'aiment bien parce que du coup, il est connu. C'est le tonton Escourgeon. Et il y en a même qui veulent bien participer aux frais des foins et tout ça pour que je le garde. On verra. Parce qu'aussi dans le troupeau, il amène du calme. C'est vrai que c'est un tout petit troupeau. Il joue vraiment un rôle dans la hiérarchie. C'est très hiérarchique, hein, les vaches. Et la petite, des fois, va dormir tout contre lui plutôt que contre sa mère. Et lui, j'aimerais bien le tuer moi-même. Mais il n'a pas l'air d'accord. Mais je ne le mettrai pas à l'abattoir, c'est sûr. Je commence par enlever les épaules. Bon, celui-ci n'est pas gros, donc on va pas savoir faire des belles pièces. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que ça, c'est la carcasse. Je vais la casser en plusieurs morceaux. Je vais enlever les épaules. Je suis en train de faire. Ça vient en un seul morceau. Quand tu découpes, tu essayes de suivre les muscles. Et d'être le plus propre possible. Ici, si tu regardes l'arrière, il y a un petit creux. À ce niveau-là, il y a un cartilage, plus ou moins. Il doit être ici ou là. Et là. Voilà. Et un des moments les plus apaisants que j'ai eu. En trayant mouche, tu sais, je mets un petit tabouret, tu te mets sur le côté, j'étais sur le côté, son côté droit, donc j'avais ma tête comme ça, et j'ai mis ma tête dans son pis, et ça sentait le lait comme ça, et c'était tout chaud, et ça sentait le petit veau et tout ça. J'ai cru que j'allais m'endormir là, dans son pis. C'était doux, c'était chaud, ça sentait bon. Oh
quel moment. Trop. On aurait envie d'être un à vous. C'est quand tu rates ton coup. Déchets. Voilà, à hauteur du sternum. Il y a des tout petits. C'est pas un gros agneau. Il faut faire gaffe parce que ça coupe super fort les os. Ça. Ici, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 et 6. Ou entre 4 et 5, c'est selon. Et voilà, la carcasse elle est cassée. Donc je vais remettre des trucs au frais, le temps de m'occuper des pièces. La partie que j'aime bien, elle doit se terminer, tu vois, elle ne dure pas longtemps. J'aime bien de la grosse carcasse là, comme c'était. La casser en petits morceaux là, faire plein de petits. Bon après, ça m'emmerde. Ici, ça c'est magique, j'aime bien. Tu vois là où il y a les petites veines. Tu fais un coup de couteau, un autre coup de couteau, et tu fais ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien mettre sur la 8e marche. J'allais là, à l'intersection des deux sortes de pierres, de la brique rouge et de la pierre de taille. Je me mettais là, comme ça, je mangeais. Et, si tu veux, je te montrerai des photos, je mangeais toujours là, comme ça. Et alors, j'avais mon assiette fétiche qui est là. Mon plat de toile d'araignée avec le bord vert. Et j'imaginais ma marraine dedans. Et j'écoutais les conversations. Voilà, je passais mon temps comme ça. Ça va, là, ça fait pas trop bizarre.
Pourquoi ta marraine?
Ma marraine est morte, je m'en souviens pas. Et voilà, je crois que j'avais besoin de... Elle est dans cette assiette. J'avais décidé de devenir alcoolique.
T'avais quel âge?
12-13. Je m'enfermais dans la cave, là, et je n'aimais pas spécialement, puis j'avais pas spécialement soif. Donc la crique, ça passait, et alors je me forçais à boire, parce que j'avais lu ou entendu qu'il fallait boire X verres par jour pour être alcoolique. Alors je me suis dit, bah, allez, commence par en boire un par jour, puis deux.
Pourquoi tu voulais devenir alcoolique?
Ben parce que dans la famille, il y en a, quoi, et je crois que ça a un rapport encore avec ma marraine qui est morte de ça. Et...
Tu t'es mis à boire de 12 ans, à quel âge?
29 ou 30, je sais plus. C'était pas spécialement l'alcool ou quelque chose qui était dangereux, c'était mon comportement d'aller jusqu'au bout, jusqu'à tomber. Que ce soit avec de l'alcool, avec n'importe quoi qui défonce. C'est à ce moment-là qu'Escourgeon est né. C'est ces années-là. Et Escourgeon, je l'ai pris un peu comme mon petit bébé, tu vois. Et c'est ça que j'ai très dur. Parce que j'allais le voir, je me souviens, j'étais très triste. Et la présence de ce veau m'a beaucoup aidé, quoi. Il est beau,
ouais.
J'ai retrouvé le prénom de sa mère, ça faisait des semaines que je ne le trouvais plus, c'était horrible. Carillon. Son père, Barnabé. Je me souviens quand on a mis sa mère à l'abattoir. Il était encore petit. Et il la tétait encore. c'est déjà pas facile. Et c'est bizarre parce qu'avant je le voyais gros et aujourd'hui je le vois tout petit. Quand je le vois tout petit, tout maigre, tu vois. Et je vois sa petite tête de quand il était petit. Et quand je suis près de lui, j'ai pas trop de peine en fait. Je le sens assez calme. Et ok, c'est bizarre hein, de dire ça. Mais je suis vraiment triste quand je me retrouve hors de l'étable. Enfin, de l'étable, du hangar. Et que je pense à moi et au manque que j'aurai, quoi. C'est une relation de 6 ans, quoi. Avec tous les espoirs que j'ai mis dedans tout un temps, les défaites, tout ce dans quoi il m'a accompagné, où je l'ai forcé à m'accompagner. Je me demandais si c'était une erreur, quoi, d'avoir fait ça. De m'autoriser à l'aimer autant. J'ai l'impression que la ferme va être triste, quoi. J'irais même jusqu'à dire le village. Et si... En tout cas, moi, je vais être triste. Et donc, si moi, je suis triste, mon monde est triste. Et si mon monde est triste, le monde est triste vu qu'on ne voit le monde que par soi-même. Non ? Donc voilà, le monde sera triste. Il y a des gens qui ont des chevaux et qui s'en occupent moins que moi de lui. Tu vois, il y en a plein qui n'imagineraient pas bouffer leur poney, quoi. Ben moi, j'ai l'impression que je vais bouffer mon poney. Juste là, je tombais sur un recueil de poèmes de Francis André, qui est un poète du XXe siècle. Il a été prisonnier de guerre avec mon grand-père, de Fratin, c'est près de Buznol, là-bas. Donc c'est poème paysan, hein, que ça s'appelle. Quelque chose t'émeut, c'est bien ça, c'est un beau poème, qui parle d'un instant, là, avec sa vache. Ce sont des poèmes très, très terre à terre qui, moi, depuis toute petite, m'ont émerveillé. Il y en a un aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est avec son arbre où il va tuer un arbre, un gros chêne qu'il a vu grandir.
Tu veux m'en lire un hein?
Je ne sais pas lire de poèmes, je n'ai pas l'intonation qu'il faut. Ça s'appelle Mort d'un arbre, oui. Voilà. Nous allions tous les deux. Là, il explique quand il va mettre son bœuf à l'abattoir, son bœuf avec lequel il a travaillé. Ça, pour quelqu'un qui aime la terre, pour moi, ça décrit extrêmement bien ce que je ressens. C'est plaisant. Ça m'a aidé à comprendre comment je voulais fonctionner. Quand tu te lances dans l'élevage, mais que c'était pas l'activité de tes parents, l'activité principale. Ils ont eu des bêtes. Je veux dire, moi, je suis pas la fille néo-rurale qui vient et qui se dit « Ah, c'est mignon !» 3 moutons, je vais faire un potager, je vais vivre en habitat léger, c'est mignon. Non, j'en étais pas là. Seulement, je n'étais pas non plus fille de culto. Et il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Bien que, étant petite, j'ai amené un bœuf à l'abattoir avec mon père, j'ai vu des cochons pendus, j'ai tout ça. Quand j'ai repris que ça a été de ma responsabilité, dire que c'était plus de la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais c'était moi qui allais emmener mes bêtes à l'abattoir, ça a posé problème. C'était dur. C'était... Oui, c'est... à pleurer, quoi. Je veux dire... Bon. Avec le temps, je me suis fait de pote avec les gens de l'abattoir. Ça aide. Vraiment. Ça aide. Mais aussi, j'ai rencontré des gens qui cherchait des alternatives. C'est-à-dire que je me suis renseigné sur ce qui se faisait d'autre. Et c'est dans cette démarche-là, d'ailleurs, que j'ai été moi-même interviewé des éleveurs, des éleveuses, sur leur rapport à la mort de leurs animaux. Ça m'a aidé, moi, à me faire mon idée de ce que je voulais. Dans tout ça, j'ai été amené à rencontrer Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Le vieux. J'ai pas envie de dire le vieux parce qu'il n'est pas si vieux. En tout cas, j'ai été amené à rencontrer cet ancien boucher, retraité, éleveur, qui lui allait tuer les cochons dans les fermes aussi. J'ai sympathisé avec lui. On s'est bien entendu. Et voilà, une fois, il dit, cette fois-ci, tu vas faire ça comme rôle dans la tuerie. Chaque fois, c'est apprendre un petit peu. Donc, c'est surtout regarder faire. Et puis, au fur et à mesure, apprendre les gestes. Jusqu'au jour où t'en parles un peu autour de toi. Genre, je tue des bêtes. Et qu'on te dit, j'en ai un tué chez moi. Tu dis, ok. Tu vas toute seule. Et puis, la première fois que j'ai tué un cochon, pas seul, mais où c'était moi qui dirigeais les opérations. Donc j'arrive dans la ferme, je dis aux gens, voilà, la configuration de votre ferme, elle est comme ça, le cochon, on va le prendre, on va le tuer comme ça. C'est quand même une sacrée responsabilité. Et ça fout les jetons. Mais la première fois, donc, c'est très très bien passé. Heureusement, c'était chez une amie. Ça aide. Et une fois que la bête était morte, je me suis couché par terre et j'ai téléphoné à ce vieux pote qui m'a appris à tuer. Et je lui ai dit nickel, quoi. Et il m'a laissé pour le moment, c'est toujours moi qui ai son tue bestiau. Et voilà. Depuis, je fais ça. Alors là-dedans, j'aime bien le rôle social que ça donne d'être la tueuse de cochons. Je me demande, ça c'est quelque chose que je me demande vraiment, c'est si tous les éleveurs ont ça, d'arriver à se promener comme ça, de s'arrêter dans le troupeau et d'arriver en communion, vraiment une réelle communion avec l'individu qui est à côté de toi, que ce soit une vache, un cochon, un mouton, une oie, un arbre. Et ça, quand t'as un coup de mou, tu doutes de pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est bien de l'avoir en réserve quelque part. Parce que c'est des moments de pur bonheur. Tu vois, comme quand tu écoutes une symphonie que t'aimes bien et que t'arrives au moment que t'aimes bien. Ou quand il y a, je sais pas moi, un tableau que t'aimes bien et que t'es émerveillé. Il y a le même état de... C'est quelque chose de grandiose qui se développe en toi comme ça, et qui est très fort. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'une fois que tu as partagé ce moment-là avec un animal, le lien, il est bon, il est fait. Ça, c'est l'élevage. Ça, c'est beau. Et c'est en ça que je dis que le métier que je fais, c'est de l'art, parce que ça fait le même effet qu'une putain de belle œuvre d'art, quoi, quand t'arrives à ça. C'est l'apothéose. Et ça peut se passer au moment de la mise à mort, aussi, de voir ça. Une fois que la bête est là où on veut la saigner, on tend un peu le câble, histoire que le front soit bien en bonne position pour taper avec un matador. Un tube bestiau aussi, qu'on appelle ça, c'est une espèce de pistolet dans lequel on met une balle qui va pousser une tige qui va rentrer de 7-8 cm dans la tête. Donc les cochons, ça a un tout petit cerveau. Hein. Il faut vraiment viser, on trace une croix imaginaire entre l'oreille droite, l'œil gauche, l'oreille gauche, l'œil droit et le point d'intersection. là qu'il faut taper ou qu'il faut tirer là.
Bon alors.
À partir de ce moment-là, la bête tombe et là, on la saigne, quoi. Tout près du sternum, là, le doigt au-dessus, il y a quand même un petit creux, petite bosse. C'est comme si c'était marqué pointé ici, quoi. Et là, il faut quelqu'un qui lui tienne la queue parce que ça se débat très fort. Et alors, il y en a un autre qui prend une espèce de petit poêlon et qui récolte le sang, qui met ça dans un seau et qui touille bien avec sa main, quoi, parce que le sang coagule et fait des gros fils. Et ça, faut absolument l'enlever pour pas que ça se retrouve dans le boudin. Tu le jettes et les poules, elles aiment bien. Une fois que ça s'est fait, ben, on le brûle. Ça a beaucoup de poils, hein. Alors, il faut enlever ça. Le mieux, c'est au feu de paille. Ça donne un petit goût de paille. Maintenant, brûler à la paille, c'est laborieux. J'ai aussi un chalumeau. J'ai reçu ça pour Noël de mon copain. J'étais contente. Puis on retire bien les ongles, ça c'est gai. Après, on leur passe, si on a la chance d'avoir un karcher, au karcher. Sinon, bah, brosse et arrosoir. Puis voilà, on l'ouvre en deux, on enlève la tripaille et... Puis après, on le coupe en deux, on coupe la colonne en deux, on se retrouve avec deux demi-cochons. J'aime bien le couper, comment on dit, casser la carcasse, quoi, vraiment en séparer les os. Quelque chose t'émeut, ma bête préférée. Ma belle vache fauve aux doux et calmes yeux. Quelque chose s'émeut au fond de toi ce soir que tes compagnes ne sentent pas. Quelque chose m'émeut, moi aussi, dans ma chair, dans mon sang et ma vie comme toi, pauvre bête. Quelque chose qui fait que je viens près de toi pour sentir avec toi cette étreinte inconnue. L'herbe est bonne pourtant, l'herbe de tous les jours. L'herbe drue et dorée que tes compagnes mangent. Autour de nous, la vie est claire et heureuse, et tout ce qui fait la joie de nos autres jours s'épanche à l'infini. Chant, parfum et lumière. Et cependant, nous sommes là, qui errons tous les deux, en proie à cet instant prodigieux qui passe, qui ne ressemble pas à la vie de tous les jours, et qui contient peut-être des millions de jours, des millions de vies, des millions d'amours. Quelque chose est venu que nous sentons gémir de l'inconnu de notre chair. Quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qui nous tient tous les deux devant le soir immense. Ça faisait depuis que j'avais 15 ans qu'il y avait cette vieille bétaillère qui traînait et que je voulais faire ma chambre dedans.
C'est toi qui l'as rénovée ?
Oui, c'est moi qui l'ai faite avec des amis. Des amis qui sont restés des amis qui ne le sont plus. Ici, il y a des choses un peu de tout le monde. Ouais, là, il y a un bout d'arbre de chez mes parents. La planche là du lit, c'est... de chez les parents de Louise. Là-bas, il y a des trucs qui viennent de chez Sylvie. Là, il y a des trucs de San qui viennent de chez Cora et Adri. Là, il y a des choses de chez la Mariette. Là, c'est Julien. Là, il y a Magali. Il y a Romain. Il y a Fanette. Il y a un Nénette, le Jean-Luc. Et il y a tous mes... des objets que... qu'ils ont fait ou qu'ils m'ont donné. Voilà. Donc, comme ça, je me suis construit mon truc qui est plus ou moins rassurant. Mais cette porte ne sert à rien. En hiver. C'est juste que je la trouve belle. Hier, j'avais envie d'être gardienne de phare. Ben voilà, tu vois, je me suis dit, si j'avais pas les bêtes, ben j'irais garder un phare, faire l'expérience. Ou alors pêcher en mer. J'ai besoin d'être dans une grotte.
Ça, c'est une grotte.
Ben, tu vois, le soir, surtout en hiver, j'aime bien. J'ai mon petit feu, je ferme les rideaux et tout ça, et je me sens comme dans un petit terrier, comme ça. Bien sûr, ça manque d'espace, mais pour le moment, ça me convient d'être comme ça. Être dans le village, j'aime beaucoup la vie du village. Surtout que j'estime que j'ai un bon rapport avec les gens et que je suis assez sociable et tout ça. Mais j'aime bien d'être en retrait, quoi. Et de me dire, allez, là maintenant, je vais dans ce monde-là, quoi.
Tu le vois, le village d'ici?
Oui, j'aime bien mon village. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a 2 mois, j'arrive pas à les faire s'entendre. Mais je vais y arriver. Il est né au mois de décembre. Lui. J'ai plein de photos avec lui quand il était petit. Et tout. Je voulais le garder, puis je me rends compte que j'ai pas la place et que j'ai pas les finances pour... Voilà. Mais normalement, ça ferait de la bonne viande, parce que là, vu qu'il est rentré, depuis maintenant combien de temps? Une semaine, on va dire. Si tu veux, c'est comme les cochons, quand tu veux les terminer et qu'ils ont été en plein air, une fois qu'ils restent immobiles, ils ne font plus de muscles, ils font du gras. Ce que tu leur donnes à manger n'est plus dépensé dans une activité physique. Là, il n'a qu'une chose à faire, c'est manger, dormir, faire du gras. C'est... Je me disais, oh, engraisser et tout ça, j'aime pas trop. Mais en fait, je pense que c'est important pour moi d'avoir cette période-là, parce que pendant toute cette période-là, je lui donne de la farine 2 fois par jour, en plus du foin. C'est juste à lui. Et ça me prépare, moi, mentalement aussi. Je sais que j'ai... Un petit mois depuis le début que j'ai commencé. Je pas un peu comme un rite. Quelque chose que je trouve relativement contradictoire. Mais plus j'y réfléchis, moins je trouve ça contradictoire. C'est d'aimer tant, d'aimer si profondément l'animal, et de le tuer et d'en tirer une fierté en plus. C'est-à-dire que ma truie là, que j'adore, ma vache, que je porte au nu, quoi. Quand il faudra les tuer, je les tuerai moi, et je sais que j'en serai fier. Je serai fier de l'avoir fait moi, et j'aurais envie d'avoir une marque de ça, un souvenir. Il y en a une, j'ai arraché des poils. Il y en a un, j'ai gardé sa tête. Mais c'est une espèce de fierté instinctive aussi, comme ça. Comme d'un animal de proie qui serait fier de ramener sa prise à sa meute. Et en plus, plus la bête est belle et grande, et plus je me sens honoré de l'avoir tué, c'est assez spécial. Ça m'intéresserait pas d'aller tuer une vache qui ne ressemble à rien et une anonyme, là. Ou alors il faudrait que je la rende particulière. Bon. Escourgeon. C'est bon pour toi aujourd'hui.
C'est toi là, ça?
Oui, oui, c'est toi.
Pourquoi tu le sens?
Eh ben, c'est bizarre parce que je pensais que ça sentirait lui. Et... T'es pas, j'avais envie de voir. Ah, c'est terrible. J'aime bien te sentir. Et regarde là. Qu'est-ce que ça aime. Là, c'est des poils de la mère de Mirabelle. Ficelle. Je vais mettre un peu des poils d'escourgeon à côté. Ficelle, je l'ai tuée. Alors, j'ai gardé ses poils. Quand j'ai été en âge de reprendre la ferme, j'ai racheté ici... les territoires, enfin, il y a 5 hectares attenant. Et j'y tenais vraiment beaucoup parce que les personnes qui avaient racheté, j'ai eu des mauvaises histoires avec, des mauvaises expériences. Et le lieu était pour moi sali, ici. Le lieu qui représentait, oui, mon enfance, qui est censé être quelque chose de beau. Oui, je voulais vraiment lui recréer des nouveaux souvenirs. Du coup, comment est-ce que j'ai fait pour me réapproprier les lieux? Ben, c'est littéralement en faisant pipi dans les coins. Oui. Enlever des choses, couper des arbres, en replanter, arracher une clôture, en remettre une autre. Brûler des planches. Je réfléchissais à ça aussi avec le territoire, parce que je suis quand même assez ouverte et tu sais, j'aime pas trop ces gens qui sont tout le temps propriété privée, viens pas te promener dans mon bois, viens pas... Bêtement, une pancarte propriété privée, moi j'ai toujours envie d'aller la taguer ou de l'arracher. Mais en même temps, moi ici c'est mon territoire et je veux pas qu'on vienne me faire chier chez moi. Et je veux pas voir quelqu'un qui débarque en petit short rose fluo Décathlon faire son footing. Je pourrais lui tirer dessus à la carabine à plomb. Et donc ça aussi c'est très contradictoire. Il y a ça avec le territoire ici. Quand les chasseurs viennent et qui tue, ils me disent « Hey, je t'ai tué un renard !» Genre, comme s'ils avaient fait le truc super bien pour mes poules, ou mes oies. Et s'il y avait un renard à tuer, c'était à moi à le faire, pas à eux. Ça me fait chier, j'ai envie de leur en coller une. S'ils me disent « Oh, on a pris un chevreuil, ou ceci, ou cela. » Ben non. Pourtant, j'ai fait ça, aller travailler dans les chasses pour dépecer. Ouais, je crois que je suis un ancien loup. Je vais demander à récupérer, c'est... Le nom m'échappe. Donc juste les cornes. Le scalp, si tu veux. Donc un bout de crâne qui tient juste les cornes. J'étais allé le jour même, mais je les avais pas vus, bref... C'est le lendemain que j'ai repris tout ça, ces cornes, et alors ces abats, cœur, poumon, foie, bref, tout ça, les rognons, les joues. Donc j'ai mangé les joues, j'ai vendu ce qu'il y avait avant, les gens qui aiment bien les abats. Les poumons, j'en ai rien fait, je les ai mis au renard. Et le cœur, on me le demandait, parce qu'il y a des gens qui voulaient le manger, et je me disais non, c'est pas possible. De toute façon, j'avais décidé avant que j'allais enterrer son cœur là où il avait l'habitude d'aller, quand il était dans une prairie en été. Ça se situe dans un petit bois. Quand il fait chaud, comme ça, ils aiment bien d'aller là-dedans. Ils sont un peu plus à l'abri des mouches, ils peuvent se gratter, il fait plus frais. Et alors, c'est là que j'ai voulu aller enterrer le cœur et mettre les cornes. Et le cœur, il a fallu que j'aie terminé de tout découper pour arriver à m'en occuper. Donc, étant donné que j'ai récupéré les abats le lendemain de sa mort et que j'ai laissé maturer la bête dans le frigo 3 semaines, imagine un cœur qui... Il attendait dans un frigo, quoi. Mais je l'ai relavé au vinaigre et tout ça, j'en ai pris soin, je l'ai vraiment frotté et tout ça pour qu'il soit beau. Il puait pas. Donc on avait pris Charles, mon voisin, cousin, qui avait aussi un bon rapport avec Escourgeon, voulait être là. Donc on l'a fait ensemble. Il m'a donné une de ses caisses de vin en bois, là. Voilà, avec des fleurs qui, pour lui, étaient importantes à mettre. J'ai mis de la paille, du foin. J'ai mis de la farine, mais pas de la farine d'engraissement, parce que j'avais pas envie que... Je sais pas, je trouvais que ça faisait trop... C'était juste pour son plaisir, pas pour de la rentabilité, quoi. C'était de la farine pour lui faire plaisir. J'ai mis un caillou, là, mais je sais jamais comment ça s'appelle, moi. Avec les... En spirale, là, un fossile en spirale, que j'avais dans ma voiture. J'ai mis du sel, parce que les vaches, elles aiment bien le sel. Elles sont tout le temps, dès que t'arrives avec du sel, elles viennent te relécher partout. J'ai mis après... je voulais à la base mettre une photo de nous. Un portrait de famille. Donc, Escourgeon, Mouche, Mirabelle, Lamélie et Morette et moi. Parce que j'estime que je fais partie du troupeau. L'éleveur fait partie du troupeau, étant donné qu'il n'y aurait pas de troupeau sans éleveur. Et donc, j'estime que je faisais partie de cette famille. Et c'est vraiment le jour même que je me suis dit « Oh, j'ai des poils d'escourgeon, j'ai pris de ses poils à lui, j'ai pris un petit fil de laine rouge et blanc, qu'on, selon une tradition bulgare, c'est peut-être pas qu'en Bulgarie, mais il y a en Bulgarie, le 1er mars, c'est la Martenitsa. Et ils mettent ça, ils décorent leur bête avec ça. Et c'est censé être signe de prospérité et tout ça. Et donc j'ai pris ce fil-là, parce qu'avec ma mère, on fait la Martenitsa, pour relier à des petites étiquettes avec nos noms. Donc j'ai mis des poils de nous tous, coupés à l'opinel. Avec, les miens aussi.
Avec les noms.
Avec les noms, ouais. Et alors, ouais, c'était étrange parce que Mouche, je voulais lui prendre ses poils, là, auprès des cornes, là, ils sont bien longs, ils sont bien lisses, bien beaux. Et elle ne se laissait pas faire. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est pour Escourgeon. Et au nom d'Escourgeon, j'ai senti... En fait, je n'ai plus dit Escourgeon dans l'étable depuis qu'il n'est plus là. Eh ben, les vaches... On pensait à lui, j'en suis sûr. Enfin, on pensait à lui, je ne sais pas si on peut exprimer ça comme ça, mais quand j'ai dit Escourgeon, c'était clair dans leur tête. Escourgeon, elle savait de qui je parlais, quoi. Mouche s'est laissée faire. Et elle n'a pas arrêté de faire des... comme ça. C'était... Et même la Morette qui ne se laisse pas faire, tout le monde s'est laissé faire, quoi. Et puis voilà, j'ai été creuser le trou. Je pensais que j'allais m'effondrer, mais non. En mettant le cœur dans la boîte et en voyant le résultat que je trouvais joli, j'ai été très émue. Et j'étais très triste de me travailler avec ce cœur. J'étais près de mes parents, j'ai voulu le montrer à ma mère qui m'a dit non, je peux pas. J'ai montré à mon père qui a fait une drôle de tête. Je me suis dit, il se fout de ma gueule. Et puis il m'a dit, non, moi le premier chevreuil que j'ai tué, j'ai été enterré son cœur aussi. Il m'a dit. Et je le savais pas. Donc c'était. Voilà.
une création radiophonique de Stéphanie Kerkart, accompagnée par Karine Demange pour Athanor Productions. Montage, musique et design sonore, Isa Straliati. Mixage, Yvan Hanon. Avec l'aide et le soutien de David Diossono. Merci à l'éleveuse et à ses animaux, particulièrement à Escourgeon, Mouche, Mirabelle, Morette, Mélie, Simone et à son entourage d'avoir rendu possible cette création. Merci à Alain Renoir, Céline Sitt, Christelle, Ima, Paquerette et Béa. Poème cité de Francis André, Quelque chose t'émeut, du recueil Paysan, édité par la Province du Luxembourg.